W comme working class, une astuce dans notre abécédaire pour évoquer la classe ouvrière. Mais si on s'en tient à une traduction plus juste de working class, on parlerait plutôt de classe travailleuse ou de classe laborieuse. Et vous nous direz peut-être si la conception de classe ouvrière n'est pas un peu étroite pour parler du monde du travail. Et puis surtout, nous voulions aborder ou réaborder la conception marxiste des rapports de classe et la position toute particulière qui est donnée au monde ouvrier.
Bien, je trouve que c'est intéressant que vous ayez choisi l'expression anglaise de working class parce qu'elle nous permet d'entrer et d'éclairer un certain nombre de choses. En anglais, contrairement à ce qui se passe en français, en anglais, il y a deux mots pour désigner le travail. Il y a work, et il y a labor. Alors, quand on regarde attentivement ces deux mots, l'existence de ces deux mots, on découvre un certain nombre de choses. Par exemple, on peut dire « work party » au lieu de dire « labor party ». Et pourtant, les deux termes qui sont très très proches ne sont pas vraiment, ils sont pas vraiment synonymes. « Working », par exemple, « working », ça se dit d'une manière générale pour tout ce qui concerne le monde ouvrier. Par exemple, « working day », c'est un jour ouvrable. « Working class district », c'est un quartier ouvrier. « Working wife », c'est une femme mariée qui travaille. Working population, c'est la population active. Et workman, naturellement, c'est l'ouvrier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on compare ces deux termes? Et c'est bien intéressant, cette comparaison. C'est que le terme labor apparaît comme plus ancien. Il est d'une part plus ancien et il est plus général. Par exemple, on ne peut pas dire en anglais « laboring class », comme vous dites « working class », c'est nécessairement au pluriel. En anglais, « laboring classes », donc le pluriel, ça signifie des communautés de travail. Des communautés de travail, des corporations, c'est-à-dire un sens très large. L'étendue de ce sens, on le trouve par exemple dans le titre de Shakespeare, « Peine d'amour perdue ». Le terme qui désigne peine, c'est « labor ». Et quand on dit « laboriste » par exemple pour un écrivain, c'est-à-dire que c'est un type qui peine à écrire. Et l'expression au pluriel de « laboring class », ça peut nous faire penser à l'expression qu'utilisait Proudhon. Proudhon parler des classes travailleuses, au pluriel. Et l'attitude de Marx consistait à refuser le pluriel, utiliser le singulier classe ouvrière, parce que classe ouvrière, ça signifiait en quelque sorte le domaine social, le domaine d'activité, dans lequel tombaient toutes les classes sociales, à partir du moment où régnaient les rapports de production capitalistes, au moment où ces rapports étaient dominants. Ça veut dire que la working class, la classe ouvrière de Marx, est un facteur d'unité. C'est donc plus ancien, c'est plus général, et peut-être on peut penser, je ne sais pas pour quelle raison le terme de labor a été choisi pour le Labour Party, mais on peut penser que le terme englobe à la fois la classe ouvrière, les classes travailleuses, mais aussi le travail dans le mode de production qui a précédé le capitalisme. Alors là, on retrouve le français, évidemment, parce qu'en français, on parle du labeur, et il y a les laboureurs. Les laboureurs, donc c'est la paysannerie. Et ça nous dit que l'idée d'une classe ouvrière, d'une classe de travailleurs, ou les travailleurs, désigne un champ plus étendu que ce que nous appelons la classe ouvrière, c'est-à-dire des populations qui se consacrent à différentes formes de travail. Alors il y a la paysannerie, bien sûr, il y a les ouvriers, mais il y a également les artisans. J'ajoute que le terme qui signifie travailleur dans la fameuse formule qui conclut le manifeste, c'est workers. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous, c'est workers. Et peut-être ici, il faut ajouter que derrière, il y a un sens politique dans la mesure où work suppose le face-à-face entre classe ouvrière et bourgeoisie. Alors, si on va un peu plus loin, je crois qu'il faut d'abord spécifier ce qu'est la classe ouvrière, la raison pour laquelle ce concept a été mis en avant par Marx. Et là, on dira que la première distinction qui nous vient à l'esprit, parce qu'elle est la clé d'un certain nombre d'autres choses, c'est entre ouvrier et prolétaire. Classe ouvrière et prolétariat. Et on croit souvent, là aussi, que ces termes sont synonymes. Ils ne sont pas synonymes dans la mesure où, déjà chez Marx, mais aussi dans toute la tradition ensuite du mouvement ouvrier, on a considéré que le prolétariat, c'était la partie avancée de la classe ouvrière. En quoi réside la différence? Je crois qu'elle est simple, c'est le fait que le prolétariat, c'est la fraction de la classe ouvrière qui dispose de la conscience de classe, qui est parvenue à la conscience de classe, et qui par conséquent va jouer le rôle d'une avant-garde. Et cette avant-garde va tirer derrière elle les ouvriers, naturellement, mais plus généralement l'ensemble des travailleurs. Tout ce qui concerne le salariat, ce qui concerne aussi la petite production marchande, la petite propriété, puisque Marx disait que la classe ouvrière, sans l'alliance avec les classes petites bourgeoises, puisqu'il utilisait ce terme, était condamnée à échouer dans ses luttes, et que sa lutte propre serait le solo d'un chant funèbre. Donc derrière, il y a l'alliance qu'il faut tirer. Et ça, c'est pas la peine d'y insister, mais c'est traduit par l'image bien connue de la faucille et du marteau. Lorsque les Russes dépassent le populisme à la fin du siècle dernier, l'alliance qui est proposée par Lénine contre beaucoup de théoriciens et de politiques de l'époque, c'est l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie, sans laquelle il ne peut pas y avoir de révolution. Or, nous savons que cette alliance est celle qui s'est imposée dans toutes les révolutions. On n'a jamais eu de révolution, à part la tentative de la Commune, qui ne concerne que la classe ouvrière. Encore faut-il dire que les principaux acteurs de la Commune étaient des artisans. Donc voilà une première précision, et on en voit une illustration dans le Capital. On a fait remarquer que dans le Capital, à la différence du manifeste, le concept de prolétariat disparaissait. Pourquoi ? Il est remplacé par le concept d'ouvrier, et Marx, au début du Capital, dit que son livre a été écrit du point de vue de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il a été écrit pour un secteur de la population, qui sont les travailleurs de l'industrie, qui sont les producteurs de la plus-value, sans poser leur conscience de classe. La conscience de classe, c'est l'élément politique qui transforme un noyau ouvrier en prolétariat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prolétariat dans le Capital. Tout au moins, le concept n'est pas mis en avant en tant que tel, et qu'à l'inverse, c'est celui d'ouvrier. Alors, cette idée work-labor, c'est l'idée que non seulement il faut intégrer des couches de travailleurs classiques, comme les paysans, comme les artisans, comme les employés, mais il faut aujourd'hui peut-être substituer à la notion de classe ouvrière la notion de dominer, ou la notion d'exploiter. Parce que derrière, on voit ce qui se passe à l'échelle mondiale. Ce qui se passe à l'échelle mondiale aujourd'hui, bien que peu de soi-disant scientifiques s'y intéressent, c'est une nouvelle forme de la lutte de classe. Il y a aujourd'hui une lutte de classe internationale. Quand on dit que la classe ouvrière, et donc l'idée même de classe, a disparu des pays de l'Occident ou des pays développés, c'est naturellement parfaitement fallacieux. D'abord parce que les statistiques des sociologues montrent que la classe ouvrière est toujours une assise importante dans le domaine du travail. Et puis surtout parce qu'à l'échelle de la planète, jamais, jamais, le monde ouvrier n'a été aussi nombreux. Et que la qualification d'ouvrier est en expansion dans le monde entier. Juste une remarque, on constate qu'aujourd'hui, avec l'effondrement du mur de Berlin, on a eu comme conséquence que quelque chose comme 100 millions de travailleurs sont tombés dans l'assiette, si on peut dire, du capitalisme. Et ça, naturellement, ça provoque des changements à l'échelle planétaire très importants et des changements concernant la lutte de classe. Laquelle lutte de classe, quand on regarde l'Amérique latine et les mouvements de contestation, les mouvements révolutionnaires en Amérique latine, on voit bien qu'ils vont tout à fait au-delà du monde classique ouvrier. C'est le monde de la paysannerie, mais de cette paysannerie particulière qui est la paysannerie indigène dans les pays dits sous-développés. Alors tout ça est extrêmement important parce que l'extension doit encore aller au-delà. Par exemple, si on prend notre pays, eh bien l'idée de l'alliance, l'idée d'un pot commun pour les ouvriers, la paysannerie, l'artisanat ou les employés, doit aussi englober les travailleurs qui sont provisoirement ou pour plus longtemps, qui sont sans emploi, mais aussi qui sont sans papier. Un des drames du syndicalisme aujourd'hui dans les pays dits développés, c'est qu'on laisse de côté les syndicats ouvriers, laissent de côté les travailleurs sans emploi. Le chômage était traité par les syndicats français en 1936 et il semble qu'aujourd'hui, seules les associations de chômeurs se soucient du statut de ces chômeurs qui, à la différence des chômeurs du temps de Marx, ne sont plus une armée de réserve, mais sont au contraire un pourcentage incompressible d'une population qui est condamnée à ne pas travailler, c'est-à-dire qu'ils sont des chômeurs structurels. Voilà, il me semble que c'est ce qu'on peut dire sur l'idée de working class et voir la richesse de ce concept.